autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour remonter très loin dans l'espace et dans le temps grâce à la lumière. D'où vient-elle? Comment voyage-t-elle? Comment interagit-elle avec la matière? Et pourquoi est-elle le principal messager de l'univers, le témoin de la formation des mondes? En cette année internationale de la lumière, nous vous proposons de vivre la formidable odyssée de la lumière, celle du premier rayonnement fossile de l'univers, celle qui nous vient de notre soleil, en compagnie de nos brillants invités, les astrophysiciens Jean-Marc Bonnet-Bidot et Roland Lehoucq et la cosmologiste Nabila Aghanim, commissaire scientifique de l'exposition immersive L'Odyssée de la Lumière à la Cité des Sciences à Paris, autour de la question comment voyage la lumière. Bienvenue. Bonjour Nabila Aghanim.
Bonjour.
Bonjour Roland Lehoucq.
Bonjour.
Bonjour Jean-Marc Bonnet-Bidot. Ah oui, vous avez même répondu avant. Formidable. Merci en tout cas à tous les trois d'être en direct avec nous pour nous faire partager cette odyssée de la lumière, exposition donc immersive, à vivre à la Cité des Sciences à Paris, mais aussi sur la toile, dans un webdoc qui retrace le voyage de deux particules de lumière, l'une originaire de l'univers lointain et l'autre du centre du Soleil. On va commencer par la lumière la plus lointaine dans le temps et dans l'espace avec vous, Nabila Aghanim. Vous êtes cosmologiste, directrice de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, membre de la collaboration Planck. Vous êtes spécialiste de l'interprétation du rayonnement de fond de l'univers, c'est-à-dire du premier rayonnement fossile, la toute première lumière des origines. Et grâce à la lumière, vous cherchez à comprendre comment tout cela a commencé, c'est ça ?
Oui, exactement. En fait, cette lumière qui a été émise au tout début de l'histoire de l'univers, quand il était vraiment très jeune, et correspond vraiment à une empreinte digitale de cet univers-là. Et donc, on essaye d'interpréter cette lumière en tant que telle, en faisant des analyses statistiques, des analyses physiques. Et on essaye aussi de voir qu'est-ce qui va perturber cette lumière lors de son trajet dans le temps et dans l'espace. Et à travers ces petites perturbations, apprendre non seulement ce qui s'est passé au tout début de l'univers, mais aussi ce qui s'est passé tout au long de l'histoire de l'univers, notamment à travers la formation des galaxies, des amas de galaxies et autres grandes structures.
Donc remonter le temps et l'espace. Jean-Marc Bonnet-Bidot, vous êtes astrophysicien au service d'astrophysique du CEA. Vous travaillez sur les derniers stades de la vie des étoiles et la recherche des astres denses de l'univers. Vous poursuivez, on peut le dire, vous aussi, la lumière. C'est elle qui porte quoi? Les informations que vous recherchez?
Ah oui, la lumière porte toutes les informations qui nous viennent du ciel. C'est à 99%, on pourrait dire, le seul messager. Il reste que très peu de choses en termes de petites particules, parfois, qui nous arrive du ciel. Et c'est depuis des millénaires la source d'information des astronomes. La lumière nous a permis de comprendre la position des astres, de comprendre leur évolution, leur mouvement, jusqu'à l'avènement de la physique moderne, où là, on s'est aperçu que dans la lumière elle-même était emprisonnée une information beaucoup plus subtile, qui était par exemple la température. On peut déterminer la température d'un astre à partir de sa lumière. On peut déterminer sa vitesse, la mesurer très précisément, et on peut même déterminer sa composition chimique. Et je dirais un petit peu comme Nabila, à l'aide d'une espèce d'empreinte digitale des éléments chimiques à travers la lumière. C'est comme un code-barre. Les éléments chimiques s'impriment dans la lumière, nous mettent des petites barres noires, et à l'aide de ces petites barres noires, on peut décoder si c'est de l'oxygène, de l'hydrogène, du carbone et de l'azote. Et donc, c'était tout le début de l'astrophysique a été faite de ça. L'interprétation du message de la lumière, de ce message très détaillé que nous apporte la lumière.
La lumière comme empreinte. Hein, Roland Lehoucq, vous êtes astrophysicien au service d'astrophysique du CEA. Vos recherches portent sur la topographie de l'univers. Vous êtes également un grand amateur de science-fiction et un grand passeur de science à travers la fiction. La lumière, ça serait quoi? Le messager par excellence qui permet de voyager dans les espace et dans le temps.
Oui, c'est ça, puisque la lumière, comme vient de le dire Nabila et Jean-Marc, porte une information sur les sources qui ont émis cette lumière. Et cette information voyage à la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde, ce qui est une vitesse tout à fait considérable, hein, bien plus rapide que les plus rapides engins humains. La lumière ferait en gros l'équivalent de 7 fois demi le tour de la Terre en une seconde. Elle met un peu plus d'une seconde pour venir de la Lune, 500 secondes pour venir du Soleil et plusieurs années pour venir de l'étoile la plus proche. Plus de 4 années pour venir de l'étoile la plus proche. Donc, la lumière est très rapide, mais comme elle n'est pas infiniment rapide, le temps qu'elle arrive de ses sources lointaines, eh bien, elle nous porte témoignage du moment où elle a été émise. Et quand la source est lointaine, eh bien, elle nous montre l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, telle qu'elle était il y a 4 ans. Elle nous montre les galaxies, la galaxie la plus proche, la galaxie d'Andromède, telle qu'elle était il y a plus de 2 500 000 années. Et elle nous montre les confins de l'univers, tels qu'ils étaient il y a 13,8 milliards d'années.
C'est pas de la science-fiction, c'est juste avec la lumière.
C'est exactement, c'est la lumière. La lumière voyage dans l'espace et dans le temps, puisqu'elle met un certain temps pour se déplacer sur une certaine distance.
Embarquement immédiat donc pour cette odyssée de la lumière autour de la question comment voyage la lumière. Première piste de réflexion sonore et immersive sur nos ondes radio avec le mix évidemment brillant de Guillaume Ploquin.
Beaucoup des éléments qui ont été à l'origine de la révolution scientifique du XXe siècle sont relatifs à la lumière.
Il y a 13,8 milliards d'années, l'univers était plus dense et plus chaud qu'aujourd'hui. À cette époque, matière et lumière sont encore intimement mêlées.
La lumière, c'est ce qui réunit l'espace-temps. C'est le cœur de la théorie d'Einstein. Le temps et l'espace sont compressibles ou élastiques ou peuvent se dilater. Mais par contre, la vitesse de la lumière, c'est une vitesse fixe.
Il n'y a que la lumière qui va à la vitesse de la lumière. C'est une limite fondamentale.
Enfin libérée de la matière solaire, la lumière se propage en ligne droite dans le vide interplanétaire à la vitesse de 300 000 km par seconde.
Les Chinois appellent la Voie lactée la rivière d'argent, ce qui est quand même assez similaire, hein, finalement, cette espèce de bande lumineuse.
La lumière et l'ombre, c'est un monde fantastique, plus le laser, lumière cohérente, c'est fascinant.
Alors la lumière des lasers peut être utilisée pour explorer les organes du corps humain. La lumière, après avoir pénétré dans le bras, va être diffusée de très nombreuses fois à l'intérieur des tissus et elle va ressortir. Et c'est cette lumière que nous analysons pour en extraire des renseignements sur les tissus.
Finalement, la science nous permet d'aller au-delà des apparences, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous constatons.
Après 13,8 milliards d'années de voyage, Max approche enfin de la Terre. Il croise le satellite Planck.
Finalement, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des questions qu'on réussit à aborder de manière mondiale avec des collègues et qu'on réussit à faire avancer au fur et à mesure.
La lumière émise porte en elle des informations essentielles sur cette période de l'évolution de l'univers.
Qu'en est-il aujourd'hui avec la lumière ? Autrement dit, des questions relatives à la lumière, elles sont permanentes, elles sont séculaires, il y en aura probablement encore.
Et ça, je trouve ça excitant. C'est quelque chose qui est fabuleux.
Fabuleux et toujours en point d'interrogation autour de la question comment voyage la lumière. Il faut dire tout de même que pour nous la faire partager, cette odyssée de la lumière dans cette exposition et dans ce webdog, vous avez choisi de nous la faire vivre, comment dire, en immersion. C'est ça, t'imaginer en fait les expériences d'Einstein, je crois, si on chevauchait la lumière, c'est ça.
Einstein avait imaginé, pour résoudre ces problèmes de la concordance entre le temps et l'espace, de voyager à cheval sur un photon, un grain de lumière. Alors on a imaginé pour l'exposition la même expérience, sauf qu'on en a choisi deux pour laisser aux spectateurs le choix d'avoir un itinéraire ou un autre. Finalement, il fera les deux parce que ces deux particules de lumière se donnent rendez-vous à la Tour Eiffel à Paris.
Et elles viennent, enfin une vient de l'univers très lointain.
Alors, on n'a pas choisi au hasard. On a pris parmi les deux lumières essentielles. D'abord, on a pris la plus proche de nous, la lumière cosmique la plus proche de nous, celle qui vient du Soleil. En remontant d'où elle vient, c'est-à-dire elle vient de l'intérieur du Soleil, donc elle fait tout un trajet pour en sortir, puis après pour nous parvenir. Et puis on a choisi la plus lointaine, celle qui s'est vraiment formée au début de l'expansion de l'univers et qui a, elle, traversé tout l'univers pour nous parvenir et qui a donc emmagasiné sur son trajet toute une information sur toute l'histoire de l'univers.
Parmi les questions, alors il y a d'où vient la lumière, ça on peut le découvrir dans cette exposition-là et vous le découvrez en tant que qu'astrophysicien, mais qu'est-ce que c'est que la lumière ? Est-ce qu'on peut la définir, Roland Le Houx ?
Ah oui, les physiciens ont longtemps hésité entre deux définitions, et puis finalement ils se sont accordés pour dire que les deux étaient également valables. D'une part, la lumière vue comme une particule, comme un petit grain d'énergie, ce qui a été une des premières visions qu'on a eues de la lumière, et puis on s'est rendu compte ensuite que la lumière était plus, il était mieux adapté de la décrire en termes d'ondes, en termes ondulatoires, pour rendre compte d'un certain nombre de phénomènes que la vision particulière ne pouvait pas expliquer, qu'on appelle les interférences, par exemple. Et la description en termes d'ondes et en termes de particules se sont un peu battues l'une l'autre entre physiciens.
Il y a eu des
entre grains et ondes, on va dire. Et puis finalement, le grand rassemblement a eu lieu au début du XXe siècle avec l'avènement de la physique quantique, cette physique qui décrit le monde microscopique à l'échelle des atomes, à l'échelle des particules. Et on s'est rendu compte que la matière que l'on voyait comme des grains de des particules constituées de petites particules élémentaires était elle aussi discutable, envisageable, traitable comme une onde. Et donc on a pu faire le parallèle entre matière et lumière, et finalement matière et lumière sont décrites à la fois comme des ondes et des particules, et on dirait maintenant, en vocable moderne, que particules ou lumières sont des quantons, des objets qui se décrivent de temps en temps, dans ce qui se manifeste de temps en temps comme des grains d'énergie, de temps en temps comme des ondes, et selon le type d'expérience que vous menez, vous verrez cette manifestation ou cette autre manifestation. C'est un peu comme l'ornithorynque, la lumière, on va dire ça, on peut résumer comme ça.
Comme cet animal qui est plusieurs choses en même temps.
Il est une seule chose, l'ornithorynque. Oui. Il est un ornithorynque. Mais si vous le regardez de dos, vous avez l'impression que c'est quelque chose comme une taupe, ça ressemble un peu à une taupe, et de face, ça ressemble un peu à un canard. Mais c'est ni un canard ni une taupe. La lumière, c'est ni une onde ni un corpuscule. La matière, c'est ni une onde ni un corpuscule. C'est un quanton, c'est un ornithorynque de la physique.
Un ornithorynque de la physique, une empreinte. Allez, on continue de chevaucher l'ornithorynque de la physique. La lumière, aujourd'hui, autour de la question comment voyage la lumière sur les ondes de RFI. On écoute Alpha Blondie. Claire sur RFI autour de la question comment voyage la lumière en compagnie des astrophysiciens Roland Lehoucq et Jean-Marc Bonnet-Bideau et de la cosmologiste Nabila Aghanim, commissaire scientifique de l'exposition L'Odyssée de la lumière en immersion à la Cité des Sciences à Paris et dans un web documentaire extrait du voyage de Max, particule de lumière originaire de l'univers lointain, voyage rendu visible par les observations du satellite Planck sur la première lumière de l'univers.
Voici notre galaxie, la Voie lactée, observée en lumière micro-ondes par le satellite Planck. Le gaz et les poussières sont visibles comme des structures filamenteuses qui s'étendent bien au-delà du plan de notre galaxie. En arrière-plan se trouve une émission lumineuse résiduelle qui provient du fond de l'univers. Cette lumière nous renseigne sur l'état de l'univers à des époques très anciennes. Bien que l'univers ait commencé à se refroidir, la matière est encore à quelques milliers de degrés. Ce fluide est traversé par des ondes qui résultent du jeu contradictoire entre gravité et pression. Cela crée des sortes de grumeaux qui fluctuent en permanence. Ces ondes sont similaires à celles produites par une plaque métallique que l'on fait vibrer grâce à un archet. Du sable disposé à sa surface permet de matérialiser les vibrations de la plaque en s'accumulant le long des lignes où la plaque reste immobile. De la même façon, les ondes qui parcourent le gaz primordial ont créé des superpositions complexes de régions où, comme le sable, la matière s'est plus ou moins accumulée. Il en résulte une juxtaposition de zones où la matière est plus ou moins dense. Comme la lumière est étroitement liée avec la matière, elle reproduit exactement cette répartition variant au rythme des vibrations qui traversent la matière primordiale.
Voilà comment cette lumière des origines a pu parvenir jusqu'à nous, Nabila Ghanim. Le rayonnement fossile de l'univers, c'est ce que vous cherchiez à cartographier avec le satellite Planck.
Oui, c'est ça. Donc, ce rayonnement fossile, c'est donc l'empreinte digitale dont je parlais tout à l'heure, et c'est effectivement un rayonnement.
La première lumière, le premier rayonnement.
Oui.
Il y a combien de temps?
Il y a 13,8 milliards d'années, quand l'univers était âgé de 380 000 ans, tout bébé. Et c'est une lumière donc qui en fait retrace en même temps l'origine de l'univers, à savoir le moment où cet univers était décrit par un état physique très chaud, très dense, où la matière et le rayonnement étaient intimement liés l'un à l'autre. Et cette liaison, cette relation entre matière et lumière, qui était assurée par le fait qu'il y avait des interactions physiques entre les petits corpuscules, les petits quantas de lumière dont parlait Roland tout à l'heure, et la matière ionisée, les électrons en particulier, les protons aussi, cette relation donc va se distendre. Ça va se distendre essentiellement à cause de l'expansion, parce que l'expansion va faire que le trajet parcouru par un petit corpuscule de matière va être de plus en plus grand entre deux interactions, entre deux...
Parce que c'est toujours une interaction en fait, la lumière toujours en interaction avec la matière.
C'est toujours en interaction avec la matière, en particulier dans l'univers très primordial, parce que ces interactions sont associées au fait que la matière à cette époque-là était ce qu'on appelle ionisée. Ce n'était pas de la matière sous l'état neutre, mais c'était de la matière sous forme d'électrons et de protons. Et dans ce cas-là, dans ces conditions physiques, les interactions entre les photons et la matière sont très très fortes. Après, les photons continuent d'interagir avec la matière, mais de manière différente. Ils interagissent avec la matière soit par effet de gravité, donc la gravité, la masse des objets qu'ils vont contourner, qu'ils vont approcher, va changer l'espace autour d'eux et va donc défléchir, changer la trajectoire en fait des photons. Donc il y a deux types d'interactions, des interactions qui sont d'ordre gravitationnel, le fait d'avoir une masse qui déforme l'espace et qui déforme donc les trajectoires des photons, et un autre type d'interactions qui est les interactions liées à la présence d'électrons ou de protons, parce qu'à un moment il y a eu énormément d'énergie qui a été déposée à un endroit, formation d'étoiles par exemple, formation d'un grand nombre d'étoiles qui d'un seul coup transforme la matière neutre en matière ionisée.
Et ça vous avez pu l'observer grâce au satellite, pour dire reconstituer en fait étape par étape comment ça a pu évoluer.
Alors ça a l'air effectivement un petit peu magique,
mais
en fait on réussit à avec Planck à faire la part des choses entre ce qui est arrivé au tout début de l'univers et ce qui est arrivé à la lumière lors de son trajet pendant les 13,8 milliards d'années. On réussit à faire ça parce que chacune de ces interactions dont je parle a une signature spécifique. On parlait tout à l'heure de code barre et là c'est un petit peu pareil, c'est un code barre qui est soit un code barre dans l'information liée à la lumière en tant que telle, soit un code barre qui est la forme des objets, qui est un petit peu déformée.
Et justement, donc vous savez à ce moment-là à quel moment dans le temps et dans l'espace ça se situe, c'est le code barre de ça?
C'est le code barre de ça qui nous donne entre autres le moment où ça s'est passé et qui nous donne surtout une information sur quel est le processus physique qu'il y a derrière. Et on réussit à voir ça parce qu'on observe le ciel à différentes couleurs, dans 9 couleurs dans le cadre de Planck, chaque couleur étant une information sur la température, une époque, un processus physique, et donc on réussit en décomposant les différents voiles, les 9 voiles de la lumière, à retracer son histoire et à retracer son parcours tout au long des...
Vous imaginiez, Nabila, je sais pas, en démarrant vos études en cosmologie, arriver à décrypter le rayonnement fossile, la première lumière émise par l'univers, et puis ensuite son trajet justement jusqu'à nous?
J'ai commencé effectivement ma carrière scientifique par une thèse, en me posant des questions sur la compréhension globale en fait de l'univers, et donc ça m'a amené automatiquement à m'intéresser à la cosmologie, cette science qui s'intéresse au cosmos en tant que tel et pas à des objets spécifiques. Et j'ai eu la chance de me retrouver dans mon laboratoire où je faisais ma thèse au cœur de la conception de Planck au tout début, l'idée de proposer un satellite pour essayer de justement éplucher, effeuiller l'univers pour arriver à répondre à des questions fondamentales comme la théorie, entre autres, de l'inflation et puis la formation de l'univers.
À partir de cette première lumière.
Oui.
autour de la question comment voyage la lumière. On continue de s'interroger donc depuis l'univers lointain et puis depuis le centre de notre soleil sur cette formidable odyssée de la lumière, témoin de la formation des mondes, mais aussi, on va le voir, outil d'observation et de compréhension de l'univers. Suite dans 3 minutes, juste après le flash d'info sur toutes nos longueurs d'onde. À tout de suite dans la lumière de RFI.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie de l'Odyssée de la Lumière, exposition immersive à la Cité des Sciences à Paris, mais aussi sur le web et sur RFI, à l'occasion de l'Année Internationale de la Lumière, en compagnie des astrophysiciens Roland Lehoucq et Jean-Marc Bonnet-Bideau, et de la cosmologiste Nabila Aghanim, autour de la question « Comment voyage la lumière ?» extrait du voyage de SOHO, particule originaire du centre du Soleil.
Le Soleil est une puissante source de lumière qui illumine notre planète depuis 4,5 milliards d'années. D'où vient cette lumière? C'est dans les couches les plus externes du Soleil que tout se joue. Explorons le dernier centième du rayon solaire. À l'intérieur du Soleil, les particules de matière qui composent le gaz diffusent la lumière. Elles se comportent comme autant d'obstacles à la progression de la lumière. À chaque rencontre, la lumière change de direction de propagation. Tout se passe comme dans une forêt. Le regard d'un promeneur ne porte pas au loin, car chaque arbre est un obstacle. Mais lorsqu'il s'approche de la lisière, les arbres se font plus rares et il finit par apercevoir la sortie. Il en va de même pour la lumière. En progressant vers l'extérieur du soleil, moins dense, elle rencontre de moins en moins de matière et franchit des distances de plus en plus grandes entre deux diffusions. Dans les 500 derniers kilomètres, l'horizon s'éclaircit et la lumière est diffusée une ultime fois avant de s'échapper du Soleil. En dépit de sa vitesse très élevée, elle a mis environ 100 000 ans pour sortir du Soleil en raison de l'interminable labyrinthe imposé par la matière. Elle va enfin pouvoir voyager librement dans l'espace.
La lumière met donc environ 100 000 ans pour sortir du Soleil. C'est absolument hallucinant, Jean-Marc Bonnet-Bideau.
Absolument, c'est tout à fait hallucinant, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'elle voyageait à la vitesse de 300 000 km par seconde. Or, le diamètre, le rayon du Soleil, c'est 700 000 km. Donc si on fait le calcul, elle devrait sortir en 2,3 secondes. Et pourtant, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce que...
Qu'est-ce qui l'en empêche?
Ben, l'intérieur du Soleil est tellement dense que cette lumière rebondit sur des tas d'obstacles qui sont les noyaux de matière qui sont autour de cette lumière. Et les diffusions sont tellement nombreuses, à peu près une toutes les centimètres de sa progression, qu'elle fait énormément d'allers-retours, voire des retours, justement, au lieu de progresser toujours vers l'extérieur. Si bien que, en faisant le calcul rigoureux, on arrive à 100 000 ans pour que cette lumière issue du centre du Soleil parvienne à la surface du Soleil. Et donc si maintenant nous faisons le calcul à 100 000 ans, s'il lui a fallu 100 000 ans pour sortir, on calcule à peu près la vitesse à laquelle elle a progressé rigoureusement de l'intérieur vers l'extérieur, c'est moins que la vitesse d'un escargot.
C'est hallucinant là. Absolument. Aussi, parce qu'après, à partir du moment où elle n'est plus dans le labyrinthe de la lumière, de la matière, pardon, et où elle peut voyager librement dans l'espace, elle reprend sa vitesse de la
Exactement.
Lumière.
Exactement. Et tout d'un coup, elle franchit en 500 secondes à peu près les 150 millions de kilomètres qui séparent le Soleil de la Terre. Donc on voit très bien cette interaction dont on parlait tout à l'heure. Pour la lumière, elle est tout le temps en interaction avec la matière, et ce n'est que dans les conditions où elle est enfin libérée de la matière, on parlait tout à l'heure du rayonnement de fond qui est libéré par l'univers, qu'elle voyage à sa vraie vitesse. Donc la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, il faut toujours dire que c'est dans le vide.
C'est dans le vide, voilà. Mais c'est celle qu'on perçoit, nous. C'est cette lumière-là qu'on perçoit, nous.
La lumière qui vient du Soleil, elle vient d'un endroit qui s'appelle la photosphère, cette surface du Soleil dont semble émise la lumière, et qui est opaque en dessous de cette surface. Le Soleil est opaque, on ne voit pas l'intérieur du Soleil, précisément parce que la lumière est diffusée de très nombreuses fois à l'intérieur, et elle nous parvient à partir du moment où elle n'y a plus assez de matière au-dessus d'elle pour la diffuser ou la ralentir une fois de plus. Elle part en ligne droite dans la direction qu'elle avait au moment où elle a été libérée de la matière, et une partie, à peu près un milliardième de la lumière émise en tout par le Soleil, un milliardième de la lumière émise en tout par le Soleil arrive sur Terre.
Ça, c'est la photosphère, et heureusement qu'il n'y en a qu'un milliardième, parce que la lumière permet la vie, mais il y a une partie de la lumière que nous ne supporterions pas.
Oui, c'est-à-dire un milliardième, c'est déjà pas mal. Ça représente 10 000 fois la consommation humaine d'énergie sur Terre.
Donc c'est pas mal. Hein.
Ce milliardième, c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Évidemment, s'il y avait 2 milliardièmes, ben, ça serait beaucoup plus. Ça modifierait considérablement, évidemment, le bilan énergétique de la Terre, qui la machine terrestre, la machine thermique terrestre, son climat, son atmosphère, la façon dont l'atmosphère est structurée, la façon dont les plantes reçoivent, absorbent et transforment la lumière en finalement ingrédients pour leur vie, en matière organique, eh bien serait radicalement modifié si on recevait plus ou moins d'ailleurs de lumière du soleil.
Et c'est parce qu'on reçoit cette lumière-là du soleil que notre ciel est bleu ?
Notre ciel est bleu parce qu'on reçoit de la lumière qui se trouvait être celle du soleil, mais qui pourrait être un peu différente, pas trop différente, mais un peu différente. Le soleil pourrait être un peu plus chaud, un peu plus froid, le ciel resterait bleu. Ça ressemble, enfin, la cause du bleu, c'est essentiellement la diffusion d'une lumière qu'on appelle visible, celle que l'on voit à nos yeux, sur les molécules de l'atmosphère. Et il se trouve que vu la taille des molécules, c'est la lumière bleue, les longueurs d'onde bleues, la couleur bleue qui sont plus facilement diffusées que les couleurs vertes ou rouges. On peut dire en gros que la couleur rouge est 16 fois moins, à peu près 16 fois moins diffusée que la lumière bleue. Ce qui fait que si vous regardez dans une direction du ciel où il n'y a pas de source, où il n'y a pas le soleil, pas de nuages, on oublie qu'il y a les nuages évidemment, dans un ciel parfaitement découvert, vous allez voir de la lumière qui vous vient du soleil, mais qui sera enrichi en bleu, qui sera plutôt bleu, parce que c'est le bleu qui est le plus diffusé. À l'inverse, si maintenant vous regardez le soleil qui se couche, la lumière du soleil va traverser une grande épaisseur d'atmosphère, cette lumière sera appauvrie en bleu, et qu'est-ce qui reste quand on enlève le bleu de la lumière blanche ? Il va rester le rouge, et le soleil, au couchant, est rouge-orangé.
Et la nuit est noire.
Et la nuit est noire, oui, parce que là, le soleil est couché sous l'horizon, donc là, tout est normal. Mais il y a des questions encore sur la nuit noire, parce qu'il y a des subtilités. La question de pourquoi la nuit est-elle noire en dépit du fait que l'univers est rempli d'étoiles ?
Une question qui brille et qui sont lumineuses.
Qui sont brillent et sont lumineuses. C'est une question qui a une portée cosmologique. Et il y a toute une affaire qu'on appelle le paradoxe d'Olbers, ou la question de la nuit noire qui a soulevé tempête sous un crâne, ou sous plusieurs crânes même, pendant des siècles.
Autour de la question, comment voyage la lumière et qu'est-ce que ça nous apprend sur l'univers, je vous propose un autre éclairage, vu, je sais pas, du ciel bleu ou de la nuit noire, en tout cas vu de l'espace, c'est celui de l'astronaute Jean-François Clairvoy de l'ESA, qui a déjà voyagé par 3 fois dans l'espace pour en revenir avec de nouvelles interrogations, toujours plus brillantes sur la lumière, on l'écoute.
Juste après mon premier vol spatial, on m'avait demandé d'écrire une petite nouvelle à la méthode un peu Jules Verne pour le Sud-Ouest. Et j'avais écrit une petite histoire d'un ingénieur qui met au point un super processeur pour de l'interférométrie optique. Il va installer des télescopes sur tous les objets du système solaire pour faire l'équivalent d'un télescope avec un immense miroir équivalent, donc très haute résolution, et il observe le reflet de la Terre sur une partie glacée qui fait miroir d'une planète autour d'un autre système solaire, donc à 2000 années-lumière. Et comme ça, dans le reflet de la Terre se reflétant sur cette planète qui a 2000 années, on voit ce qui se passait sur Terre il y a 4000 ans. Donc ce qui est fascinant avec la lumière, c'est le fait qu'elle se propage à vitesse finie. Fait que par exemple, si vous regardez l'image de la Terre dans un miroir posé sur la Lune, vous voyez ce qui s'est passé il y a 2 secondes. Donc la lumière permet de voyager dans le temps, enfin à ce jour que dans le passé. Mais bon, la lumière qui voyage à une vitesse finie, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, et jusqu'à présent c'est une limite, et est-ce qu'il y a quelque chose au-delà ? Voilà, ça c'est la question.
Qui peut répondre à cette question de l'astronaute Jean-François Clairvoy ? Jean-Marc Bonnevido, Roland Lehoucq, je sais pas.
Oui, d'abord, je dirais qu'il a raison. C'est vrai que, alors évidemment, sa proposition est toute théorique, parce qu'il faut imaginer que la lumière qui part de la Terre, qui se dilue dans l'espace jusqu'à 2000 années-lumière et qui revient, vous imaginez, il y a une quantité absolument infime de lumière qui revient, absolument infime, donc pas facile à capter. Mais dans le principe, il a raison, mais on peut le faire tous les jours. Si vous êtes devant votre miroir de salle de bain, vous êtes à peu près 1m50 de votre miroir de salle de bain. Je dis 1m50 parce que ça va faire des calculs ronds qui vont permettre de calculer en temps réel sans problème. Donc la lumière qui part de votre visage mais fait 3 mètres, elle va jusqu'au miroir et puis elle revient. Elle a parcouru 3 mètres. Il a fallu à peu près 10 milliardièmes de seconde pour le faire. Donc très rigoureusement, l'image que vous voyez dans le miroir de salle de bain, c'est pas vous. Vous maintenant, c'est vous il y a 10 milliardièmes de seconde. Alors évidemment, vos sens sont un peu dépassés par l'infime quantité de temps.
En fait, c'est pas tout à fait nous.
C'est pas tout à fait vous à ce 10 milliardièmes de seconde près. Bon. Tout à fait négligeable et imperceptible à nos sens, mais vous voyez que quand Jean-François Clairvoy dit « si on regardait le reflet de la Terre sur un grand miroir posé sur la Lune, la lumière met 2 secondes et demie pour faire l'aller-retour, l'image que nous verrions dans ce miroir, c'est celle de la Terre, il y a 2 secondes et demie. » Et alors, c'est à 2000 années-lumière, ça ferait bien 4000 ans, puisqu'il faut 4000 ans la lumière pour faire cet aller-retour. Donc dans le fond, il a raison, c'est vertigineux, c'est une expérience de pensée vertigineuse, c'est le mérite des expériences de pensée, mais on peut la faire, vous voyez, pratiquement tous les jours. Et c'est de la même façon, les ondes radio qui sont portées par RFI, par vos antennes, elles voyagent à la vitesse de la lumière. Quand elles parcourent 3000 km, il faut à peu près un centième de seconde pour qu'elles parviennent. Donc quand je dis bonjour, quelqu'un qui est à 3000 km l'a entendu un centième de seconde plus tard.
Oui, il y a un tout petit décalage. Pas trop, mais il y a quand même un petit décalage.
Il y a un tout petit décalage qui est juste dû au fait que la vitesse de la lumière est finie, même si elle est très grande. 300 000 km par seconde, c'est absolument gigantesque, mais elle est finie. Et donc, voilà, ça soulève des idées marrantes, comme si par magie, quelque part dans l'espace, une étoile s'éteignait, on la verrait briller encore un certain temps, le temps que le dernier grain de lumière nous parvienne. Si le soleil s'éteignait instantanément, si Harry Potter arrive et dit « j'éteins le soleil », pendant 500 secondes,
on le verra encore briller.
Oui, le temps que le dernier grain de lumière émis par le soleil parvienne. Donc on aura encore 500 secondes de bonus. C'est pas remarquable, mais enfin, c'est toujours amusant à dire.
Jean-Marc Bonnevideau.
Moi, ce qui m'a frappé dans le cas de la lumière, c'est qu'en fait, on parle toujours de la lumière que l'on reçoit, mais nous pouvons aussi émettre de la lumière. C'est-à-dire, vous sortez le soir avec une lampe de poche, vous allumez pendant une seconde votre lampe de poche vers le ciel, vous expédiez dans le cosmos 10 milliards de particules de lumière.
Et rien qu'en en allumant une seconde.
Très peu de temps. Mmh. Et vous délivrez ce message qui va lui-même partir. Et donc, il va voyager à la vitesse de la lumière. Et la quasi-totalité de ces petites particules de lumière auront le chemin libre. Elles vont pouvoir se propager à leur tour vers le fond de l'univers. Donc, le message est dans les deux sens.
Roland Lehoux ?
Oui, on est aussi émetteur. Par exemple, le RFI et la radio en général est émettrice d'ondes radio. On en a parlé il y a un instant, mais il faut imaginer que la première émission d'ondes radio a eu lieu, en gros, il y a 100 ans, pour faire rond. Ça veut dire qu'elle a parcouru, en gros, 100 années-lumière. Et donc, toute espèce extraterrestre éventuellement capable de capter à moins de 100 années-lumière détecte que les humains font de la radio.
Et donc, a pu l'entendre.
Et au-delà de 100 années-lumière, la Terre, c'est un endroit assez peu intéressant qui n'émet pas de radio. Et si, à l'inverse, vous venez vers la Terre, imaginez, vous venez vers la Terre de très très loin, de 1000 années-lumière, vous allez croiser ces coquilles d'ondes radio qui ont été émises régulièrement depuis 100 ans, et vous pourriez, encore une fois, c'est une chance de penser, ça serait pas facile à faire en pratique, mais vous pourriez croiser toutes les émissions radio qui ont été faites depuis que la radio existe sur Terre par toutes les émetteurs radio sur Terre.
On revient dans l'autre sens.
Bon, après, on revient dans l'autre sens, c'est en avançant vers Terre. Et vous verriez toutes ces émissions jouer très très vite, et vous auriez une sorte de, d'accélérer de tout ce que la radio a émis dans toutes les directions, vers la Terre, mais aussi vers les
étoiles. Donc la lumière, c'est messager du passé, bien sûr, ça peut pas être messager de ce qui s'est passé.
Voilà, parce qu'il y a forcément un décalage qui nous apporte le message avec un peu de retard. Et il faudra effectivement autre chose pour nous apporter les images du futur. Mais ceci dit...
beaucoup de retard quand il s'agit du rayonnement fossile, où c'est 14 000 ans avant.
Oui, donc on le reçoit, 14 milliards, on reçoit ce qui s'est passé il y a 14 000 ans.
Il y a 14 milliards.
Milliards. C'est juste impossible, là. Donc il y a 14 milliards d'années, et vous ne recevez que le retour. Donc on a perdu beaucoup au passage en 14 milliards d'années.
Non, absolument.
Ah, pas tant
non,
que
non,
ça.
Non. En fait, on a fait évoluer cette lumière. On l'a changée. On ne voit pas la lumière telle qu'elle a été émise. On parlait tout à l'heure d'un point de vue de la température. Donc, on ne voit pas la lumière qui a été émise lors de la dernière diffusion au niveau de l'univers à la température à laquelle elle était. Mais on la voit refroidie. On la voit à 3 degrés Kelvin alors qu'elle a été émise à quelques milliers de degrés Kelvin, exactement comme le Soleil. Donc, en fait, on a changé sa nature au sens de sa température. On n'a pas changé sa nature au sens du contenu d'information qu'il y a dedans.
Oui, elle a toujours les informations à l'intérieur, mais c'est plus la même.
C'est plus la même température. Une de ses quantités, une de ses caractéristiques a changé.
Autour de la question comment voyage la lumière, je propose d'écouter les hautes lumières de Fauve sur RFI.
Après la nuit. Je t'emmène lancer des médailles dans l'eau bleue des fontaines et cueillir à nouveau ces visions qu'on s'offrait autrefois comme des couronnes. Ces visions qu'on s'échangeait pour se dire, pour se rappeler, je suis veilleur, tu es musée. Je veux sentir les feuilles de menthe craquer sous nos dents avec la chlorophylle qui s'échappe et te faire écouter le son de carillon que fait le claquement des drisses de pavillon contre les mâts avec en fond le grand fracas de la mer qui rapporte et au-dessus la procession de cargo des nuages bas et blancs. Je voudrais te faire rencontrer les femmes cyprines et les volqueens qu'elles nous habillent de robes et de diadèmes au croisement d'Amsterdam et de la 80e pendant que moi je te mettrai au poignet des bracelets de tissu qui viendront des bras bracelets de fleurs, puis des rubans, puis des violons. Je porte le blason de mon clan, je l'ai désormais gravé sur la face visible de mon cœur. Mais ça ne fait pas mal, rassure-toi, au contraire. J'ai fait broder nos souvenirs étincelants sur deux manteaux de nuit que m'ont offert des frères qui se rendent à pied canu. J'ai à la main mes ossières, je suis prêt. Après la nuit. Je t'emmène plonger dans la Seine et nager dans les courants forts de Beauchamp. Nager dans les rivières, remonter les ruisseaux, puis prendre un bain brûlant où je laverai ta peau au lait d'anès avant de sécher ton corps moi-même comme avant, quand on était adolescent. Je veux faire l'amour dans les champs, dans les clairières, dans les taxis. Je veux faire l'amour partout, même sur les toits de Paris. Je veux résider au creux de ton cou et dans tes draps parfumés au lilas, tandis qu'une madrée enveloppée d'un châle rouge baigne nos fronts en silence avec des croix de baume au camphre. Je te montrerai comment décrocher les boules blanches des symphorines pour les éclater sous nos pieds et entre nos doigts avant d'aller regarder la lumière des lampadaires qui rougeoient et qui vacillent sur les berges du fleuve endormi, dont les risées de vent emplissent la surface. Je veux offrir cette cigarette à ma mère, cette cigarette d'après la guerre et son odeur vanillée. Je t'emmène voir le granit rose de ces îles qu'on peut pas déplacer, mais c'est pour nous protéger. Je t'emmène tout rejouer, peut-être tout perdre, mais peut-être aussi tout rafler, tout braquer, tout gagner. Après la nuit.
Les hautes lumières de Fauve sur RFI en compagnie de la cosmologiste Nabila Aghanim et des astrophysiciens Jean-Marc Bonnet-Bideau et Roland Lehoux, commissaire de l'exposition immersive L'Odyssée de la Lumière à la Cité des Sciences, autour de la question comment voyage la lumière et jusqu'où nous entraînera-t-elle, non seulement comme témoin du passé, messager, mais aussi comme outil d'exploration, peut-être de notre futur. C'est l'éclairage du physicien et philosophe Alexei Greenbaum du laboratoire de recherche du CEA sur les sciences de la matière.
Des innovations vraiment du XXe siècle. Bon, la lumière, elle a toujours intéressé les physiciens, pas juste au XXe siècle et pas au XXIe seulement non plus. Mais ce qui a changé, c'est que vers la fin du XXe siècle, commence à émerger cette science qui a un nom nouveau de photonique. Alors la photonique, c'est en quelque sorte l'ingénierie de la lumière. C'est-à-dire on fait pas comme avant juste d'observer la lumière qui nous vient du soleil ou des étoiles, etc. Mais on peut faire des choses avec la lumière. On peut l'utiliser comme un instrument pour connaître d'autres systèmes physiques, d'autres objets physiques. Et je pense que ce serait important de mettre en valeur vraiment cette photonique, cette ingénierie de la lumière comme instrument et pas juste comme un objet d'étude en soi. Ça, c'est très important.
La lumière comme instrument, comme outil pour les physiciens et astrophysiciens que vous êtes en cette année internationale de la lumière 2015, Jean-Marc Bonnet-Bideau.
Ah, c'est très très intéressant, parce que vous savez que l'astrophysique est la seule science où on ne fait pas d'expérience normalement. Nos objets sont tellement loin qu'on ne peut pas les manipuler. Or, la lumière, et notamment l'utilisation des lasers, nous permet maintenant de faire des expériences de physique cosmique dans les laboratoires.
L'expérience de physique cosmique en réduit, enfin.
Alors exactement. Alors on utilise justement une propriété de la physique qu'on appelle les lois d'échelle, que les gens peuvent percevoir en imaginant la soufflerie où on peut tester une structure d'un Airbus 380 avec un modèle réduit, en adaptant tous les paramètres physiques pour se retrouver en proportion dans les mêmes conditions. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui dans des installations de type laser, parce que le laser nous permet de concentrer une telle quantité d'énergie dans
des
petits
volumes.
Parce
que la lumière, c'est évidemment de l'énergie, donc c'est concentré.
Exactement.
Cette énergie-là.
Et les lasers ont cette propriété de pouvoir se concentrer, parce que c'est donc une émission spécifique de la lumière. Et on arrive avec les lasers modernes, et là c'est une révolution de l'astrophysique dans les 10 ou 15 ans à venir, je pense, arrive à concentrer une telle quantité d'énergie qu'on se retrouve dans les mêmes conditions que à la surface de certains astres, notamment par exemple j'étudie moi des astres denses qu'on appelle les naines blanches. C'est le futur du Soleil, ça sera une naine blanche, une petite étoile très très condensée avec la taille de la Terre mais avec la masse du Soleil. C'est-à-dire qu'un petit sucre de cette un petit centimètre cube de cette matière fait une tonne. La densité est extrêmement élevée. On peut pas reproduire ça sur Terre. En revanche, avec le laser, par exemple le laser mégajoule du CEA, on va pouvoir, et je fais déjà des expériences, qui reproduisent les conditions physiques, mais dans un millimètre, pendant une nanoseconde. C'est ça la proportion qu'on doit atteindre pour arriver à atteindre ces mêmes caractéristiques physiques des objets cosmiques. Mais
et
ça marche.
Et donc ça vous permettrait de faire une expérience qui
on
sinon
les fait
était...
Déjà, on les fait déjà.
Vous les faites déjà.
On a déjà commencé avec des lasers de moins de grande importance. Et dans le futur, évidemment, vu qu'on va augmenter l'énergie disponible, ça va nous permettre de reproduire beaucoup, beaucoup de phénomènes. Alors évidemment, on les isole dans une petite partie de leur évolution. On peut pas reproduire la laine blanche dans le laboratoire. Mais on peut reproduire, par exemple, moi ce que j'étudie, c'est la chute de la matière sur cet objet dense. Elle dégage une énergie phénoménale sous forme de rayons X et je veux comprendre comment elle se manifeste réellement. Et ben, je le reproduis dans une petite cellule d'un millimètre qui implose complètement sous l'influence de l'énergie rayonnée par le laser et les instruments nous permettent d'étudier son évolution. Et ça sera pour l'astrophysique une façon de faire des expériences au laboratoire.
Nouvelle révolution pour l'astrophysique, la lumière comme outil, Roland Lehoucq.
Oui, bien sûr, puisque ce dont vient parler Jean-Marc, il y a aussi la lumière qu'on utilise, les lasers qui sont une source de lumière cohérente, monochromatique, une seule couleur extrêmement précise, si j'ose dire, extrêmement bien choisie. Et en astrophysique, on a l'optique instrumentale a beaucoup évolué, la capacité à faire des images du ciel avec des grands instruments, quand on a pu faire de l'optique adaptative, c'est-à-dire déformer le miroir des télescopes pour compenser les imperfections que introduit l'atmosphère, la propagation de la lumière dans l'atmosphère. Pour cela, il faut avoir des sources de référence, et une façon d'avoir des sources de référence, c'est d'utiliser un rayon laser qui va se focaliser en très haute altitude, vers 90 km d'altitude, faire une étoile artificielle, dont on connaît absolument toutes les caractéristiques, puisque nous en sommes à l'origine, et l'étude de cette étoile artificielle, en temps réel, va permettre de connaître l'état de l'atmosphère sur la trajectoire du rayon lumineux, et donc de déformer les miroirs pour atteindre, avec ces très grands miroirs que l'on construit actuellement, jusqu'à 39 mètres de diamètre, atteindre leur limite optique ultime, leur qualité ultime, grâce à des étoiles artificielles qui seront faites par des rayons laser couplés au télescope qui observe le ciel en même temps.
Et qui permettront de simuler parfaitement ce qui se passe avec la lumière.
Alors ils simulent, c'est même plus que simuler, ça va permettre de mesurer l'état atmosphérique sur le trajet de la lumière de la source astrophysique que l'on observe grâce à une étoile artificielle dont on connaît toutes les caractéristiques et observant celle qu'on reçoit au sol, en déduire les transformations que cette lumière bien connue au départ a subies pendant son trajet.
Nabila Aghani, oui, la lumière comme outil.
Oui, dans le même ordre d'idée, d'étalons en fait, hein, parce que c'est exactement ça, c'est un étalon, ce sont des sources de lumière, pareil, des lumières qui sont extrêmement bien définies, qui sont extrêmement bien étalonnées à une seule fréquence et qu'on utilise pour concevoir des détecteurs du futur, les détecteurs qui vont pouvoir mesurer des variations de température de l'ordre du milliardième et qui vont permettre d'aller bien au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'histoire de l'univers.
Qu'est-ce que veut dire quoi ? Pas de remonter plus loin, mais de remonter plus fin ?
De remonter plus loin en mesurant notamment une des caractéristiques de la lumière qu'on n'a pas du tout abordée ici, qui est son état de polarisation. Donc le fait que la lumière, c'est des ondes, et ces ondes sont agencées, arrangées d'une certaine manière, et les différences entre les agencements des ondes qui font la lumière permettent de revenir beaucoup plus loin, carrément aux origines en fait de l'univers. Pour cela, il faut bien entendu des instruments qui sont extrêmement sensibles, extrêmement précis, des instruments qui puissent mesurer des différences de l'ordre du milliardième. Et pour comprendre ces instruments, pour les concevoir, il faut des étalons lumineux sur lesquels on est en train de travailler en laboratoire.
On peut dire que la lumière, qui est quand même, à la source de la physique, des révolutions de la physique du XXe siècle, elle sera aussi à la source des révolutions de la physique et de l'astrophysique du XXIe siècle.
Jean-Marc Bonnevideau, je pense réellement parce que justement la lumière nous permet d'accéder à des phénomènes avec des échelles de temps que nous n'imaginons pas du tout. Je vous parlais tout à l'heure de la nanoseconde. On peut descendre à la attoseconde, c'est-à-dire le milliard de milliards de. C'est-à-dire que par exemple, il y a autant d'attosecondes dans une seconde qu'il n'y a de secondes dans trois fois l'âge de l'univers, dans des milliards d'années.
Oui, donc la lumière permet d'aller autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment
exactement.
Loin.
Exactement, et en temps notamment, évidemment. Donc c'est ça qui va révolutionner notre façon de voir la physique. On est déjà capable, par exemple, de faire des films avec ces lasers à taux secondes, des films de molécules, de mouvement des molécules, réellement. C'est-à-dire que quelque chose qu'évidemment on peut pas faire au microscope. Et c'est cette qualité de la lumière d'avoir un signal très précis qui nous permet d'atteindre aussi ces échelles de temps phénoménales pour l'instant, qu'on n'a pas encore commencé à explorer.
Il y a d'autres voies qui s'ouvrent aussi pour l'astrophysique et la cosmologie qui correspondent à la mesure des ondes gravitationnelles. Ce sont en fait finalement les signatures des processus astrophysiques par excellence. La force la plus dominante en fait dans l'évolution de l'univers, c'est la gravité. C'est ce qui permet aux objets de se former, de se rassembler, d'être de plus en plus denses, d'être de plus en plus grands. Les ondes gravitationnelles vont vraiment ouvrir un nouveau champ d'études d'un point de vue de l'astrophysique et de la cosmologie. Alors aujourd'hui, on en est notamment au sol avec des tentatives de mesure de ces ondes gravitationnelles qui correspondent à des interactions d'objets très très denses. Dans l'espace, il y a des programmes d'observation, notamment des programmes d'exploration des techniques à l'Agence spatiale européenne en particulier, et l'avenir d'ici à 2030, 40, peut-être 50, des observatoires entiers spatiaux pour la mesure des ondes gravitationnelles, en complément de ce qu'on aura appris à travers
la lumière. La mesure sera faite en utilisant la lumière et des lasers.
Merci infiniment à tous les trois de nous faire rêver comme ça et de donner le plaisir donc de votre présence et de vos lumières. Merci Nabila Ghanim, merci Roland Lehoucq, merci Jean-Marc Bonnet-Bidot. Pour s'immerger dans cette odyssée de la lumière, amis auditeurs, c'est à la Cité des Sciences, à Paris, jusqu'au 30 août, et vous pouvez aussi découvrir l'excellent web documentaire L'Odyssée de la Lumière sur le site d'Univers Sciences, le lien est bien sûr sur notre page. Merci à vous.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, autre genre d'odyssée, d'expérience musicale en perspective. Autour de la question, pourquoi la musique? Pourquoi partout où il y a des hommes, y a-t-il de la musique? Piste de réponse du philosophe Francis Wolff, avec Guillaume Ploquin à la réalisation, Caroline Fillette et Lou Sauvageon en coulisses. D'ici là, surtout portez-vous bien. Restez curieux, gardez l'esprit libre, ouvert et lumineux, bien sûr. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, un nouveau journal sur la Radio Mondiale.
Contactez autour de la question @rfi.fr.